Bonsoir, bonsoir, très heureux de vous retrouver en ce dimanche soir pour 3 heures d'émission en direct, comme à l'habitude. Laurent est au standard, nous avons cette grande chance, donc n'hésitez surtout pas à le solliciter en lui envoyant vos messages, vos questions que nous proposerons à nos invités. À cet effet, je rappelle le téléphone de la radio 01 46 51 00 85. 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique courtoisie@rc.fr courtoisie@rc.fr. Et puis, comme à l'habitude, de partie à cette émission à 18h, nous avons le plaisir de recevoir Denis Crouzet, qui est historien, à l'occasion de la publication d'une véritable somme historique consacrée à la Saint-Barthélemy, l'histoire introuvable, une Saint-Barthélemy sans fin, qu'il publie aux éditions Champvallon dans la collection Époque. Et puis à 19h30, eh bien, nous recevons Jean-Paul Bled, toujours en direct. Il vient de publier une passionnante histoire des Jésuites aux éditions Talendé, et bien entendu, cette émission sera consacrée à l'histoire des Jésuites d'Ignace de Loyola au pape François. Le massacre de la Saint-Barthélemy fut un événement tout aussi effrayant que déroutant. Que s'est-il passé le 24 août 1572 ? Des milliers de protestants et parfois des catholiques furent sauvagement assassinés dans des conditions atroces. Leurs cadavres profanés, mutilés, dépecés, promenés dans Paris, puis jetés dans la Seine à l'exemple de celui de l'amiral de Coligny qui, lui, a été pendu. Son cadavre a été pendu au gibet de Montfaucon. Alors bien sûr, ce furent des hommes, mais aussi des femmes parfois enceintes, et des enfants. Une sauvagerie folle, à l'exemple de ce qu'on le connaîtra d'ailleurs 2 siècles plus tard, les massacres de septembre dans les prisons en 1792. Mais que connaissons-nous des causes, des responsabilités, avant et pendant le massacre, mais aussi des buts de ceux qui déclenchèrent cette Saint-Barthélemy. Étonnamment, et à juste titre, la mémoire de ce drame a traversé, bien sûr, les temps et demeure vivace malgré l'inculture. Mais son histoire précise, l'histoire de la Saint-Barthélemy, factuelle, est introuvable. Et l'énigme originelle semble demeurer. Quelles sont les responsabilités? Quels sont les responsables? Comment le comprendre? Comment l'expliquer alors que les acteurs et les témoins furent si nombreux? S'agit-il là d'un phénomène particulier à la Saint-Barthélemy? Ou au contraire, est-ce un problème plus général à l'écriture de l'histoire? Un livre passionnant, très fouillé, est consacré à ce paradoxe et nous emporte sur 4 siècles, plus de 4 siècles d'écrits et de témoignages sur le drame de la Saint-Barthélemy, drame toujours marquant et toujours présent, en une véritable histoire de l'histoire. Ce livre, c'est l'histoire introuvable, une Saint-Barthélemy sans fin, que Denis Crouzet, que nous recevons ce soir, publie donc aux éditions Champvallon, dans la collection Époque. Alors Denis Crouzet est loin de France, hein, et donc c'est une émission par Zoom, et malheureusement, nous avons un problème technique. Il est bien présent, mais nous n'arrivons pas à établir la communication Zoom. Bon, je ne désespère pas que nous y arrivions rapidement, et en attendant, nous allons écouter un peu de musique, et dès que la connexion Zoom est établie, eh bien, nous démarrons, chers auditeurs, et cette émission, et nous vous prions de bien vouloir excuser ce contretemps technique. Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, notre petit problème technique a été, grâce à Stéphane, rapidement résolu. Nous avons donc maintenant notre invité à distance, donc grâce justement à Zoom. Alors, Monsieur Crouzet, bonsoir. J'ai fait mon introduction déjà pour gagner un peu de temps, et donc je vais quand même vous présenter aux auditeurs de Radio Courtoisie. D'abord, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce soir en direct pour évoquer donc votre livre, hein, votre somme, l'histoire introuvable de Saint-Barthélemy sans fin, que vous publiez aux éditions Champvallon dans la collection Époque, dirigée par un invité que les auditeurs connaissent bien, qu'il s'agit de Joël Cornette, et qui nous a mis en contact. Et je le remercie donc tout particulièrement. Denis Crouzet, vous êtes historien, vous êtes agrégé d'histoire, docteur en histoire, ancien pensionnaire de la Fondation Thiers et élève de Pierre Chaunus, qui vaut que ce n'est pas la première fois que vous intervenez à Radio Courtoisie, puisque je crois que vous êtes venu de l'époque de l'émission de Pierre Chaunus. Donc, vous êtes historien, vous êtes un spécialiste du XVIe siècle et de la violence et des troubles de religion au XVIe siècle, ainsi que de l'histoire des mentalités et de l'imaginaire. Alors, quand on lit votre livre, effectivement, on ne s'étonne pas que vous soyez un spécialiste de la violence et des troubles de religion, parce qu'en effet, la Saint-Barthélemy en est vraiment l'illustration. Vous êtes aussi professeur à l'université de Paris-Sorbonne, où vous dirigez l'UMR 85-96, c'est le centre Roland Mounier, et vous avez reçu en 2008, pour l'ensemble de vos travaux, le prix Madeleine Norin, porte-mère de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous êtes aussi membre correspondant dans la British Academy. Qu'est-ce que c'est qu'un membre correspondant à la British Academy? Académie de Denis Crouzet. C'est la première fois que je reçois un membre de cette nouvelle association.
Oui. Qui montre que en Angleterre, dans les milieux universitaires anglais, vous jouissez d'une reconnaissance. Et en théorie, chaque année, il y a une réunion avec un cocktail et de bons vins. Mais
même en Angleterre.
Il faut pouvoir y aller.
Donc vous avez publié, alors j'imagine aussi en langue anglaise, un certain nombre d'ouvrages.
Quelques livres qui ont été traduits en anglais, dont mon livre sur Nostradamus, et un certain nombre d'articles aussi qui ont été publiés à l'occasion de rencontres internationales.
Oui, alors justement, je vais présenter quelques ouvrages que vous avez écrits, pas tous, hein, parce que effectivement vous en avez écrit de nombreux. Alors effectivement, il y a Nostradamus, hein, une médecine des âmes à la Renaissance, hein, que vous avez publié en 2011. Et ça a été traduit effectivement aux éditions Cambridge en 2017. Et sinon en France, vous l'avez publié aux éditions Payot et Rivage. Sinon, plus proche de nous, mais loin quand même dans l'histoire, hein, vous avez publié sur Charles Quint, Empereur d'une fin des temps, ça c'est chez Odile Jacob. Et puis, dans notre sujet, Les enfants bourreaux au temps des guerres de religion, chez Albin Michel, c'est assez récent, en 2020. Vous avez des sources, vous trouvez des sources précises sur ce sujet-là? J'imagine que oui, un peu, que vous avez écrit un livre sur les enfants bourreaux au temps des guerres de religion.
Oui, ce sont des courtes notations dans des livres de raison, de ville, ou dans des histoires composées immédiatement qui racontent comment, pour ce qui est des protestants, des petits-enfants sont à la tête d'un groupe actif qui va perturber les offices religieux catholiques, ou plus spectaculaire encore, dans les grandes violences catholiques du temps, une part et laisser aux petits enfants, et ça nous amène à la Saint-Barthélemy, le cadavre de l'amiral de Coligny, après son assassinat par les hommes du duc de Guise, est abandonné sur le pavé de son hôtel où il a été précipité. Et ce sont des petits enfants, on dit 9, 12 ans, qui viennent s'emparer du corps, le traînent de carrefour, en faisant son procès et surtout en déposant le corps sur de petits bûchers jusqu'au moment où il l'abandonne sur les berges de la Seine. C'est l'atrocité n'est pas le fait seulement des adultes. Les petits-enfants, dans l'utopie de violence catholique, représentent l'innocence. Ce sont eux dont le Christ a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, ils sont innocents, etc. » Et donc, c'est un théâtre de la volonté divine qui est jouée à travers l'abandon aux petits-enfants des cadavres de protestants.
Sur ce cadavre de Coligny, quand les enfants l'abandonnent, qui l'amène au gibet de Montfaucon ? Là, ce sont des adultes, j'imagine.
Ensuite, ce sont des adultes, après avoir exercé toute une série de sévices, sans doute castration et sectionnement des pieds, qu'ils traînent jusqu'au gibet de Montfaucon, où il est pendu à l'envers.
À l'envers, c'est une histoire vraiment atroce, mais malheureusement, cette atrocité, cette horreur ne s'invite pas au cadavre de l'amiral de Coligny. Nous allons le voir avec vous ce soir. Vous avez donc aussi, je le cite, écrit « Le XVIe siècle est un héros, Michelet, inventeur de la Renaissance, face chez Albin Michel ». Alors Michelet, nous allons en parler sans doute pas à cette première émission parce que nous avons prévu de faire deux émissions sur votre livre, mais Michelet, nous évoquerons ce qu'il dit justement sur la Saint-Barthélemy, probablement lors de la prochaine émission. Le XVIe siècle est un héros, Michelet, inventeur de la Renaissance.
Michelet est un des premiers, si ce n'est le premier, à avoir interprété l'âge qui commence en Italie à la fin du XIVe siècle, mais qui prend son essor en France à la fin du XVe siècle et devient vraiment le temps majeur de la création au cours du XVIe siècle. Et Michelet s'est interrogé sur ce paradoxe de ce recommencement, une renaissance inspirée des lettres anciennes et des arts anciens. Et il a écrit dans cette perspective une série de volumes passionnants.
C'est un historien que vous appréciez parce que Michelet s'est un petit peu critiqué maintenant.
Oui, alors Michelet, moi j'avais un préjugé à son égard et puis je l'ai lu quand j'avais 50 ans au moins.
Bon, il n'y a pas longtemps 60, alors.
Et j'ai été pris par la vision qu'il arrive à avoir de cette période des guerres de religion et de cette place qu'il accorde à la violence en essayant de faire vivre les désirs de destruction qui animent catholiques contre protestants et protestants contre catholiques. C'est une poétique, Michelet, mais finalement, il arrive à nous faire saisir ce que peut être une époque dans son âpreté, son appétit de détruire l'autre.
Et puis vous avez écrit aussi « Paris criminel 1572 », et ça c'est aux éditions Les Belles Lettres, c'était tout à fait récent, c'est en 2024, que vous avez publié, alors on est en plein dans notre sujet, j'imagine ce soir, « Paris criminel 1572 », c'est aussi le Paris de la Saint-Barthélemy, c'est ça ?
C'est le Paris de la Saint-Barthélemy qui fait suite à un autre livre que j'avais écrit sur la Saint-Barthélemy dans lequel je revalorisais la figure de Catherine de Médicis comme une souveraine ayant voulu avant tout imposer un régime de concorde entre ceux qui ne pensaient qu'à se détruire, pardon. Mais là, dans ce livre, je me suis intéressé à chercher qui est-ce qui a pu tuer. Et J'ai appliqué en quelque sorte l'idée d'une culpabilité allemande qui a été développée après la Deuxième Guerre mondiale à cette Saint-Barthélemy en montrant qu'il y a un Paris criminel. Ce n'est pas seulement le Paris des tueurs, des assassins qui traînent les corps, les jettent dans la Seine et après les avoir assassinés, mais c'est aussi cette foule parisienne qui reste chez elle ou qui sort et qui est indifférente à ces assassinats qui se multiplient et qui laisse faire. Parfois, certains acceptent d'héberger chez eux un huguenot en fuite, mais c'est pour le rejeter peu après. D'autres rançonnent ceux qu'ils hébergent, mais encore les abandonnent à la rue ensuite. C'est d'élargir la criminalité de Paris à toute une population qui, dans sa grande partie, a laissé tuer 3, 4, 5, voire 6 000 huguenots, dont ces capitaines qui étaient venus pour le mariage de Marguerite de Valois avec le prince de Navarre, Henri, devenu roi de Navarre.
Alors, assassiné dans des conditions souvent absolument atroces, abominables, c'est cette histoire dont nous allons parler ensemble ce soir et puis aussi pour une autre émission que vous racontez d'une manière particulière. Justement, je vous propose, Denis Crozet, si cela vous convient, c'est que d'abord vous nous expliquiez ce qui vous a motivé à écrire ce livre. Qui n'est pas exactement une histoire de la Saint-Barthélemy. Nous allons parler, après que vous nous ayez présenté votre livre, et la manière dont vous l'avez conçu, toutes les recherches, tous ces documents qui foisonnent, c'est très impressionnant. Tous ces documents concernent, en effet, d'une manière ou d'une autre, la Saint-Barthélemy, des documents de tous les horizons, protestants, catholiques, et des d'horizons plus neutres, en quelque sorte. Comment vous les avez sélectionnés? Ce que vous nous présentez. Et puis, donc, après cette présentation de votre travail, eh bien, je vous propose que vous nous racontiez la Saint-Barthélemy en tant qu'historien spécialiste de cette période, donc en 2000, 2026. Alors, moi, ce qui me surprend, c'est que. Enfin, ce qui me surprend, on est là pour vous écouter, c'est que vous venez de parler de Catherine de Médicis. En termes mesurés, hein, sur son rôle, mais quand on lit votre livre, mais alors sinon c'est très, on ne sait pas où est la vérité. En fait, hein, c'est vraiment ce qui ressort. Et vous arrivez à parler d'elle quand même en termes modérés. Donc vous, vous êtes arrivé, bien entendu, à une vue de la réalité. Et puis après cela, bien nous rentrerons, nous parcourons votre livre parce que vous rassemblez plus de 4 siècles d'ouvrages, de documents, de témoignages consacrés à la Saint-Barthélemy, très très contradictoires. Vous allez effectivement nous expliquer ça et la lecture de tous les documents ne conduisent pas forcément à la compréhension de la vérité. Et c'est vraiment le sentiment que l'on a. Pourtant, vous êtes arrivé quand même à des conclusions. C'est votre
Si je peux juste dire, face à la Saint-Barthélemy, on se heurte à des documents nombreux, mais dont la finalité est d'instrumentaliser le passé pour ceux qui ont été tués, et c'est l'écriture protestante de l'histoire, ou contre ceux qui ont été tués, c'est la finalité de l'écriture catholique de dire qu'ils étaient des comploteurs et qu'il fallait les tuer. L'histoire n'est pas neutre. Et donc, il en résulte qu'on est devant un mur parce que il n'y a pas de texte qui assure d'une histoire réelle. On est obligé de reconstruire, d'établir des virtualités dans ce qu'ont décidé Charles IX et sa mère, dans ce qui s'est passé dans Paris pour qu'il y ait autant de victimes et une tragédie marquante de toutes les mémoires. C'est un problème fascinant. Comment écrire une histoire alors que tout est brouillé à l'origine? Immédiatement, Et l'exemple le plus frappant, c'est la royauté. C'est la royauté. Lorsque le massacre commence, après l'assassinat de Coligny, et que les premiers morts sont jetés dans la Seine, le pouvoir royal fait crier dans Paris que les violences doivent cesser, parce que ce qui s'est passé, la mort de Coligny et d'autres morts, relève d'un conflit entre maisons aristocratiques. On devine là l'idée de la monarchie et de présenter la violence comme une conséquence de la vendetta qui animait la maison catholique de Guise aux frères Châtillon, dont l'amiral de Coligny était le chef de la maison. Et de la sorte, la monarchie se désengageait de ce qui s'était passé. Mais le lendemain, alors que la volonté royale d'arrêter les violences n'a servi à rien, changement de position, et surtout le 26, le roi tient un lit de justice devant son parlement, et là, il déclare officiellement qu'il a eu la volonté de châtier un complot de ce qu'il appelle la cause, un complot protestant, contre sa famille, contre lui, et une tentative de prise de pouvoir des protestants par le meurtre, à commencer son assassinat. Donc, il légitime les violences qui ont eu lieu. Première délégitimation des violences, elle relève d'une vendetta particulière d'une maison aristocratique. Et puis, 36 heures plus tard, le contraire, non, nous avons voulu la violence.
Alors, moi, ce que je vous propose, Denis Crouzet, c'est que on va poursuivre un petit peu, s'il vous voulez bien, la présentation de votre ouvrage qui vous a amené à l'écrire et la manière dont vous l'avez écrit. Et puis, on rentrera dans l'histoire telle que vous nous la présentez là. Quels sont vous, en tant qu'historien, spécialiste de cette période, qu'est-ce que vous pouvez nous dire des causes, du déroulement, etc. Puis après, on va effectivement rentrer dans l'analyse de toute cette documentation extraordinaire que vous rassemblez sur 4 siècles avec les interprétations des uns et des autres, dont celle d'ailleurs de Michelet. Hein. Il y a tout un chapitre très intéressant consacré à Michelet, mais vous citez aussi Hugo, vous parlez de Montaigne et de Montluc, et vous évoquez le silence des deux d'ailleurs sur cet événement, parce que ce qui est impressionnant, c'est aussi le silence qu'il y a autour de cet événement. Donc, je vous propose de procéder ainsi, si vous en êtes d'accord, et de commencer par effectivement ce qui vous a amené à écrire ce livre. Et tout d'abord, d'où vient votre intérêt pour la Renaissance et plus particulièrement pour la Saint-Barthélemy et la violence de cette époque d'ailleurs.
On ne choisit jamais de façon neutre un sujet qui va vous entraîner pendant une dizaine d'années. Et à l'origine, il y a eu Pierre Chaunu. Quand je suis venu le voir tout jeune pour un sujet de thèse, il m'a dit qu'il fallait travailler sur les violences. Et j'ai commencé à ce moment-là à dépouiller les livres de raison, les histoires, scènes de violence par scènes de violence. Mais le paroxysme de ce monde déchiré, évidemment, se déroule dans la nuit du 24 août 1572, quand venu de la cour, du Louvre donc, des hommes commandés par le duc de Guise se dirigent vers l'hôtel où était logé l'amiral de Coligny et le tuent, jetant son corps par terre. Pourquoi faut-il remonter à ce moment c'est le début du massacre. Qu'est-ce qui s'est passé auparavant? Eh bien, il y a eu 3 guerres de religion qui s'achèvent en septembre 1570 par une paix voulue par la monarchie qui accorde une tolérance relative aux protestants, mais que la monarchie, surtout Catherine de Médicis, veut solidifier à partir de 1571 par un mariage biconfessionnel. Mariage de la sœur du roi, Marguerite, catholique, avec le Henri de Navarre, le fils descendant des ducs de Bourbon, et ce mariage avait certainement une dimension de réconciliation, puisqu'il allait faire vivre une catholique et un protestant ensemble dans un couple, et assurer les protestants eux-mêmes que la monarchie n'avait d'objectif que la paix. Ce mariage est organisé le 18 août 1572 dans Notre-Dame, et sont venus dans Paris 400 à 600 nobles protestants derrière l'amiral Coligny pour rentrer en quelque sorte dans une politique de confiance, une politique de concorde, d'union des cœurs derrière le roi de Navarre et sa nouvelle épouse. Il faut penser que pour Catherine de Médicis, le monde est gouverné, c'est le néoplatonisme qui est l'idéologie dominante dans les cours, le monde est gouverné par une force qui vient de Dieu, qui est l'amour, et cet amour est ce qui fait vivre les hommes ensemble, et il faut, pour être en accord avec la volonté divine, tout faire pour empêcher que le désamour ne règne, que les violences ne règnent. Donc, un mariage qui est une sorte de rite accompagnateur de la paix et qui fait que la violence va venir à contresens de l'histoire voulue par Catherine de Médicis et son fils Charles IX. Quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette paix, à qui s'accompagne de fêtes et de cérémonies dans Paris, pour que cette paix, en quelques heures, bascule vers le plus grand drame que l'Ancien Régime ait connu. Il est difficile de le dire, mais 4 jours après le mariage, il y a d'abord un attentat contre le chef historique du Parti protestant, Coligny, un tueur qui l'arquebuse et le blesse au bras et à la main. Et immédiatement, les rumeurs vont et viennent que le tueur mis en place dans la maison d'où il est attiré par la famille de Guise, les princes lorrains, en accomplissement d'une vendetta, précisément le père du duc régnant, François, ayant été assassiné par un gentilhomme protestant devant Orléans en 1563. D'où une instabilité immédiate, les rumeurs du côté des catholiques, la rumeur que les protestants tenteraient pour se venger un coup de force dans Paris, pour s'emparer de Paris et tuer les défenseurs catholiques, les capitaines de la milice bourgeoise, etc., et les nobles catholiques. Et puis, du côté des protestants, une volonté d'obtenir justice. Et si la justice n'est pas rendue, le problème de ces protestants serait d'aller faire la guerre contre le roi d'Espagne aux Pays-Bas en appui des forces protestantes qui combattent là-bas. D'où un risque pour la monarchie. D'une part, le soupçon d'un putsch protestant dans Paris, et d'autre part, le risque d'une expédition protestante qui, si elle évacuerait Paris, elle irait mettre la France en difficulté avec l'Espagne, la plus grande force militaire de l'époque, et créerait une situation de guerre avec l'Espagne.
Denis Crouzet, pardonnez-moi, j'ai quelques questions à vous poser sur cette histoire qui est passionnante. Oui. Des soupçons de part et d'autre, suite donc à la tentative d'assassinat de l'amiral de Coligny. Notons au passage que c'est Ambroise Paré qui le soigne d'ailleurs. Oui. Et Charles IX, qui a une très bonne relation avec Coligny. Charles IX envoie, va le visiter, envoie une cinquantaine d'hommes de protection.
Avec sa mère et ses frères, ils vont visiter le blessé. On ne sait pas exactement ce qui s'est dit, mais ils lui ont promis de toute évidence la sécurité. Et autour de l'hôtel où Coligny est logé, un renfort de garde est installé, tandis que les capitaines protestants qui l'ont accompagné sont, pour certains, sous la promesse d'une sécurité au Louvre, où ils vont loger et être parmi les premiers assassinés. Donc le problème est de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que...
C'est ça. Je tourne ma question, pardonnez-moi Denis Crozet, mais c'est soupçon d'un côté des protestants qui souhaitent qu'il y ait une enquête et qu'on trouve le coupable, soupçon du côté du gouvernement que les protestants pourraient partir donc aux Pays-Bas aux côtés donc des protestants contre l'Espagne et indirectement contre la France. D'où naissent ces soupçons, alors que aussi on s'étonne que l'amiral de Coligny, les documents que vous présentez le montrent, hein, il était prévenu qu'il se tramait quelque chose contre lui. On lui a conseillé de quitter Paris. Il reste quand même dans Paris. Donc, c'est beaucoup de soupçons de tous les côtés. Comment ces soupçons naissent-ils ?
C'est une sorte d'ébullition immédiatement qui entre en jeu et qui fait que tout est sous le soupçon. Coligny, certains de ses capitaines vont même, semble-t-il, jusqu'à tenter de forcer l'entrée du château des Tuileries où Catherine de Médicis est installée pour lui parler directement. Et puis, il y a dans ces quelques heures qui perdurent une angoisse catholique, le Paris catholique, qui est saisi par le fantasme d'une tuerie dont les protestants seraient les acteurs en vengeance de la blessure de l'amiral. Et c'est aussi une sorte de télescopage fantasmatique de tous côtés qui fait que la monarchie a sans doute senti à partir d'un certain moment qu'elle perdait le contrôle de la situation, qu'elle ne pouvait pas faire confiance aux protestants, mais on s'y perd. On ne sait pas si un historien, un bon historien, Jean-Louis Bourgeon, lui, a montré que la Saint-Barthélemy, c'est une fronde, c'est-à-dire c'est le peuple de Paris qui entre en rébellion derrière le duc de Guise contre cette monarchie qui a ses yeux rompu avec Dieu en acceptant de pactiser avec les fidèles de Satan que seraient les calvinistes. On est devant tous les possibles. Est-ce que la Catherine de Médicis a dû plier avec son fils devant les exigences de Guise qui lui-même pouvait être impliqué dans un procès pour son soutien possible au tueur qui avait manqué Coligny? Toutes les balises sont ouvertes et les rumeurs s'emparent du monde.
Denis Crozet, vous nous expliquez qu'on ne sait pas finalement comment ça se déclenche et qu'on ne sait toujours pas.
On ne sait toujours pas. Et les récits eux-mêmes de certains témoins, secrétaires d'ambassadeurs, suisses, varient. Quand est-ce que l'heure à laquelle l'amiral de Coligny a été réellement assassiné, elle varie entre 1h du matin et 3h. L'heure à partir du moment où La milice bourgeoise, qui est l'organisation de défense parisienne, se met en œuvre et aurait basculé dans la violence. C'est sans doute vers 7 heures du matin, mais personne n'était là pour noter le commencement et où le commencement. Il y a des éléments externes qui jouent après l'assassinat de Coligny. Vers 7-8 heures du matin, la foule commence à affluer vers le cimetière des Saints-Innocents et on sait qu'on tue, il y a des coups d'arquebuse qui résonnent, mais la foule accourt vers le cimetière des Saints-Innocents parce qu'il est dit qu'une aubépine desséchée a reverdi dans la nuit avec des fleurs en signe de ce que le Christ voit avec bonheur sa ville, Paris, revenir à une unité de foi grâce à la violence qui a commencé. Et c'est le miracle de l'aubépine qui est un catalyseur de la violence et une invention certainement par un clerc ou un groupe de clercs, mais qui fait que ce qui aurait pu être limité sans doute à une exécution des capitaines protestants avec le satisfecit de la monarchie tourne un pogrom, un pogrom. Et c'est là où on ne sait pas non plus. Il y a eu plusieurs réunions de conseil, trois, quatre, on ne sait pas, où Charles IX a siégé avec ses conseillers et Guise a été présent au moins à un. Est-ce que c'est là que s'est prise la décision que Guise ait tué l'amiral de Coligny ou a-t-il pris l'initiative? On ne sait pas. Tout ensuite est histoire de reconstitution. Cette monarchie, en tout cas, va payer très cher, on le verra, le mystère qui entoure le début de la tuerie.
Alors, Denis Crouzet, à vous écouter, on comprend tout l'intérêt de votre livre parce que finalement, le mystère demeure. Et sait-on au moins qui a ordonné la tentative d'attentat contre Coligny? Parce que ça, c'est le déclencheur, en fait. Hein. Ça commence par l'attentat contre Coligny qui échoue. Hein. Il est blessé, mais il n'est pas
Alors
tué. Sait-on que c'est Guise ou là aussi, on a des doutes, on ne sait pas très bien.
le tueur qui s'appelle Maurevers est installé dans la pièce d'une maison qui appartient à un ancien précepteur du duc lui-même. D'où vous vous doutez les soupçons, mais la monarchie ne veut pas rompre brutalement avec la maison de Guise, et donc une enquête est diligentée, qui n'arrivera pas à son terme parce qu'il va y avoir le massacre, mais dans cette société où le sang est essentiel et où un crime de sang contre un membre du lignage est un crime qui ne peut être blanchi en quelque sorte que par la mort de celui qui a tué, expliquerait que les Guises aient été derrière cet attentat.
Et ce Maurevers a parlé, il a écrit, il a
Et,
parlé, il a disparu.
un cheval l'attendait de l'autre côté de la maison et il a réussi à s'enfuir avec un paramètre, c'est que le duc de Guise qui conduit une partie de la poursuite de Hébredouille. Oui.
Alors, ce qui est très difficile à comprendre aussi dans cette chronologie des événements de la Saint-Barthélemy, donc il y a cet attentat qui échoue contre Coligny, il est blessé, il est soigné, et là, Charles IX, qui l'apprécie, va le voir, installe donc une garde pour le protéger, le rassure, hein, lui donne toutes les garanties, comme il donne des garanties à tous les protestants qui sont logés au Louvre à l'occasion du mariage hein, de Navarre avec Marguerite de Valois. C'est Marguerite, hein, c'est ça, je ne me trompe pas. Et, mais comment passe-t-on de ça? Parce que là, on est le 24 août, là. L'attentat contre Coligny, c'est aussi, c'est au matin, le 24 août, tout, c'est incroyable, c'est comme un théâtre.
L'attentat contre Coligny, c'est le 22.
C'est le 22, pardon. Donc nous sommes le 24, et le roi donne toutes les garanties à Coligny, le rassure. Et comment bascule-t-on dans une éventuelle décision de Charles IX, sous l'influence de qui? De sa mère? De Guise? De décider de la mort de Coligny et des capitaines protestants? Parce que visiblement, vous croyez en ça, en retournement de Charles IX, qui, à un moment, va décider de la mort de Coligny et des chefs protestants.
C'est une possibilité.
C'est une possibilité seulement, mais on ne sait pas.
De contrat, qui aurait été mis en place dans le vertige de cette nuit, où dit les bruits les plus dangereux pour la monarchie circulent, dont cette rumeur peut être d'une insurrection même protestante dans Paris. Et finalement la monarchie qui laisse faire, et une petite programmation qui devait seulement s'attacher au protestantisme militaire de Paris. C'est le grand problème, c'est ensuite l'explosion de cette violence vers les artisans, les bourgeois, les marchands,
tout le monde s'y met.
Protestants de Paris, dont on fixe le nombre à peut-être 8 ou 10 000 personnes. Vous voyez.
Qui vont tuer, piller, assassiner, enfin.
Et alors donc l'élément qui peut expliquer que la milice bourgeoise, qui est réquisitionnée à l'origine pour stabiliser la situation dans Paris, pour empêcher des débordements liés au capitaine protestant, elle-même va devenir un des outils de la répression et du massacrante des protestants.
Ça, c'est une réalité, que la milice, elle massacre.
Une partie de la milice a massacré.
A massacré, oui. Mais elle avait des ordres, ou ça a été dans un mouvement?
Peut-être que un des prévôts qui l'avait eu en charge a joué un rôle. C'était un homme de l'ultra-catholicisme et lié aux Guises, peut-être qu'il a laissé faire le débordement, mais il y a aussi Guise lui-même qui, après l'attentat contre Coligny et sa mort dans son hôtel, se dirige à travers Paris, qui s'est réveillé au bruit et se fait son chemin en disant « laissez passer, le roi le commande », et qui a été interprété comme un commandement du roi de tuer
tous ceux qui... Guise, dans Paris, à cheval, finalement, qui dit « allez-y, quoi, le roi le commande ».
Il a un plan de travail qui doit l'amener au Faubourg Saint-Germain, où sont logés des capitaines protestants importants, dont celui qui avait tué en tournoi le roi Henri II. Et il faut qu'il aille vite, mais peut-être qu'il y a eu une surinterprétation collective de l'appel à le laisser passer comme un appel à suivre ce qu'il avait entamé dans Paris. Et dès 8-9 heures du matin, c'est le pogrom avec des capitaines de la milice suivis par des bourgeois qui investissent des maisons, sortent manu militari les habitants et les tuent immédiatement ou les traînent jusqu'à la Seine en les jetant dans les rivières après qu'ils aient été poignardés ou arquebusés. La dynamique du massacre, si on veut essayer de la comprendre, comment on bascule d'une opération limitée
Oui,
contre le
sur quelques chefs.
protestantisme
Oui.
militaire, devient vraiment un crime collectif où les protestants sont pourchassés, sont ceux qui parviennent à anticiper sur la visite des tueurs, sont chassés dans Paris, assassinés, poignardés, les corps sont nudifiés, puis traînés à la Seine ou mis au pré au clair, qui était un espace dans lequel on traînait les carcasses d'animaux morts, les carcasses de boucherie, tout ce qui était pourri et mis là à brûler doucement, et où beaucoup de victimes ont sans doute été inhumées dans des fosses creusées en toute urgence.
Alors, Denis Crouzet, si nous résumons en quelque sorte, corrigez-moi si je me trompe, cette histoire de la Sainte-Barthélemy, et ça nous amène directement justement à votre livre et à son intérêt. Bon, on connaît actuellement la chronologie, hein, d'abord ce mariage de Marguerite de Valois avec Henri de Navarre, qu'a voulu Catherine de Médicis dans un geste justement de platonicien d'apaisement, de réconciliation, en quelque sorte, qui fait suite d'ailleurs à différentes tentatives dans les années précédentes. Et puis, quelques jours après donc ce mariage, première tentative d'assassinat de Coligny, très probablement commandée par Guise dans le cadre d'une vendetta. Ou sa mère,
Sa
d'accord.
mère qui était la veuve
La veuve de... Oui, c'est ça.
de François de Guise, mais le sang appelle le sang.
Donc, dans une sorte, en effet, de vendetta, le roi Charles IX rassure et protège Coligny. Et puis, donc là, nous sommes le 24, et c'est là où commence l'incertitude. Il y a des rumeurs folles sur le complot protestant qui inquiète la monarchie. Et à un moment, mais là aussi, on est dans la supposition. Le Charles IX aurait décidé la mort de Coligny pour se protéger et contre les demandes protestantes et ce complot possible contre la monarchie, aurait commandé l'exécution de quelques centaines de capitaines, de chefs protestants,
Ceux qui
en
étaient
se
logés au
lit,
Louvre.
oui, qui étaient logés au Louvre, et puis à quelques-uns, sans doute autour de Louvre, hein, vous parliez de Saint-Germain-des-Prés, aurait commandé ces exécutions. Et puis là, tout aurait débordé en quelque sorte sur l'impulsion prêtée à Guise, la perte de contrôle d'une partie de la milice et la population, le miracle de l'aubépine, c'est ce que vous nous décrivez, dans une espèce de geste divine qui massacre tous les protestants. Et puis après, il y a. Alors, vous mentionnez. Alors, est-ce que ça, c'est une réalité ou est-ce qu'on est dans la supposition Charles IX qui fait demander l'arrêt des massacres au petit matin, mais personne ne l'écoute. Et puis, il se justifie une première fois et une deuxième fois aux États généraux, c'est ça? Pas aux États généraux, au Parlement, pardon.
Au
Au
Parlement,
Parlement,
un lit de
un
justice
lit de
où il
justice
dit
où.
quelle a été sa volonté.
Et il dit, en fait, tout ce qui s'est passé, je l'ai voulu. Donc le massacre, je l'ai voulu, en gros. C'est ce qu'il dit. Et ce qui contredit sa première déclaration, qui était faite dans quel cadre, d'ailleurs?
Absolument, c'est là où l'histoire est commence à être introuvable,
Oui.
indéfini, parce que il y a eu des instrumentalisations diverses
C'est ça.
et l'écart avec le passé s'est élargi.
Mais Denis Crouzet, ce qu'on ne sait pas, et ce qu'on ne sait toujours pas factuellement, c'est que s'est-il passé effectivement au Louvre, entre Catherine de Médicis, Charles IX, les Guises, le Conseil, dans cette journée du 24 qui aboutit à la décision d'assassiner Coligny, qui aboutit à la décision d'assassiner un certain nombre de capitaines protestants. Ça, eh bien, on ne le sait pas. Il n'y a rien de précis. On n'a que les déclarations de Charles IX après coup, mais comme quelqu'un qui essaie de se mettre dans le courant du plus fort, quoi. Hein, on ne sait pas.
Si je peux juste rajouter,
oui.
Cette décision de massacre est tout de même antithétique de Catherine de Médicis, qui, en 1564, après la première guerre de religion, dans une lettre à un des grands nobles catholiques, dit que si on l'avait laissé gouverner le royaume sans que les hommes s'en mêlent, eh bien, on n'aurait pas eu toutes les inhumanités qui ont envahi la France durant la première guerre de religion, les atrocités. Et pourquoi dit-elle ça? Parce qu'elle dit « les femmes sont supérieures aux hommes, elles ont la douceur en elles, et les femmes ne rêvent que de guerre et de viol. » Et les hommes ne rêvent que de guerre et de violence. Et... Donc, il y a un monde entre ce qu'elle a pu avoir comme projet politique et qui s'est traduit par la paix de Saint-Germain et cette concorde que le mariage royal symbolise, et ce qui s'est passé, mais on peut soupçonner que la peur d'être dépassé par la situation, la peur de voir Paris devenir une sorte de lieu de guerre civile entre protestants et catholiques, aurait fait qu'elle et son fils ont lâché la bride au capitaine catholique, dont le duc de Guise.
Et on disait de sacrifier quelques-uns pour peut-être éviter une catastrophe encore plus grande. Cela. Mais on est vraiment dans les suppositions. Mais ce qui est assez dramatique aussi, cette histoire est dramatique, mais ce qui est aussi, je trouve, saisissant, c'est que Charles IX se renie, en fait. Semble s'être renié, semble, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé là encore, mais il va chez Coligny, il lui apporte une escorte qui le protège, il le rassure, etc. Et il semblerait, on parle au conditionnel, parce qu'on n'a aucune preuve, eh bien que quelques heures plus tard, en son conseil, sous quelle influence, il décide de faire assassiner Coligny et les chefs. Et ça, c'est absolument dramatique, c'est la parole royale, en quelque sorte, qui est en cause.
Que lui et sa mère vont payer ultérieurement très très cher avec cette légende noire d'une mère abusive et criminelle et un fils faible et abandonné au désir de sa mère.
C'est ce qui ressort effectivement de beaucoup de témoignages et de livres que vous citez. Ça va nous amener, bien sûr, après la pause que nous allons faire, sur un message de la radio, une petite pause musicale, ce qui va nous amener donc effectivement à votre livre proprement dit, à vous écouter effectivement le mystère qui toujours entoure cet événement dramatique de la Saint-Barthélemy. Eh bien, c'est ainsi, je pense, que est née l'idée de ce livre, une histoire de l'histoire de la Saint-Barthélemy, parce que finalement, factuellement, les mystères ne sont toujours pas éclairés. Mais j'imagine, puisque vous avez écrit Denis Crouzet, ce livre relativement récemment, donc en 2024, Paris criminel 1572, et que vous avez parlé de ce livre et que vous nous parlez plutôt de Catherine de Médicis comme quelqu'un qui a voulu mener une politique modératrice. J'imagine qu'au-delà de l'aspect factuel qui finalement n'est pas révélé, vous avez une conviction. J'imagine que vous avez des convictions. Comme les historiens que vous présentez d'ailleurs, de tous bords. Mais j'imagine que vous avez une conviction sur ces événements de la Saint-Barthélemy, sur ce qui s'est passé, parce que c'est clé en effet à la cour, après la visite de Charles IX à Coligny, et à 2-3 heures du matin quand le massacre commence, ces quelques heures mystérieuses, j'imagine que vous avez une conviction sur le déroulement.
Si je peux rajouter, cette monarchie double, mère-fils, a largement, depuis le début des années du règne de Charles IX, gouverné sur le principe de l'énigme. Ne jamais révéler ce que l'on est en mesure de faire pour ne pas être engagé définitivement dans une politique ou dans une autre. C'est vraiment, finalement, On comprend pourquoi Catherine de Médicis était fascinée par les quatrains de Nostradamus. C'est parce que elle y lisait en quelque sorte le sens de la situation humaine dans le monde, d'être confrontée à des puzzles dans lesquels il fallait toujours, toujours demeurer un mystère aux yeux des parties prenantes pour pouvoir être en mesure de reprendre le contrôle de la situation si jamais elle échappait. Énigme, et que rencontre-t-on donc dans le moment crucial de la Saint-Barthélemy? Une énigme. Est-ce que la monarchie a été débordée par les Guises et certains conseillers, par la peur d'une rébellion
Protestante.
parisienne, ou est-ce qu'elle a tenu jusqu'au bout et puis a dû lâcher à un certain moment pour ne pas être elle-même prise dans l'étau des violences? Donc,
Oui.
c'est très important, l'énigme dans la gestion du pouvoir.
Pensez-vous que Catherine de Médicis, Charles IX, on craint un moment comme pour la Fronde, en effet, vous évoquez, vous comparez ça avec la Fronde, a craint que si justement elle ne se rangeait pas à minima du côté des Guises, qui avaient le soutien des Parisiens, semble-t-il, et risquait d'être même débordée, envahie, pourquoi pas tuée. Est-ce que vous croyez que ça a pu jouer?
C'est
On ne
fort
sait pas.
possible, je
C'est une
dis, un
supposition
très
là
bon
encore.
historien, Jean-Louis Bourgeon, a vu dans la Saint-Barthélemy une monarchie complètement dépassée et obligée, pour ne pas être mise en cause elle-même, de se rallier à l'idée qu'elle aurait donné son accord à une foule parisienne, la milice, mais aussi les éléments les plus agressifs de la population contre les protestants. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est effrayant dans cette histoire, c'est que le crime demeure sans véritable responsable, sauf dans des récits qui seront destiné à venger les morts.
Mais alors, Denis Crouzet, je repose ma question, pardonnez-moi. Vous avez,
Oui.
vous, certainement une conviction.
Bon, moi,
Tout
je.
comme les historiens que vous présentez, vous, Michelet, etc., ce qu'on
Oui.
va voir avec vous, hein, ont acquis des convictions sur cet événement. Vous avez certainement tellement travaillé ce sujet, vous avez lu tout ce qui a
Bon,
été écrit.
je soupçonne que dans la nuit noire du 23 au 24 août, toutes les angoisses étaient possibles et que peut-être que la monarchie a, disons, capitulé devant la
C'est
peur
ça, la pression.
qu'elle pouvait avoir, et devant ces capitaines catholiques qui voulaient anticiper sur cette idée d'un complot protestant. C'est peut-être ce qui s'est passé, mais
Mais encore, on ne sait, oui. Le mystère
en tout
demeure.
cas, pas du tout la légende noire, si vous voulez.
Oui, c'est le qu'on va d'ailleurs découvrir grâce à vous, grâce à votre livre. L'histoire introuvable d'une Saint-Barthélemy sans fin que vous publiez, Denis Crouzet, aux éditions Champvalent dans la collection Époque, dirigée d'ailleurs par nos invités très appréciés, Joël Cornette. Alors nous faisons une petite pause, un message de la radio à écouter, et en même temps nous faisons une petite pause musicale, nous n'écouterons pas tout, mais vous avez choisi Jean-Sébastien Bach, d'ailleurs un choral un texte de Martin Luther. Chorale BWV 277, le Christ gisait dans les liens de la mort. Vous avez choisi cela, Monsieur Crouzet, pour ça évoque bien, en effet, cet épisode très sanglant.
Oui, on doit toujours rendre hommage aux morts, quels qu'ils soient, d'un massacre, parce qu'ils meurent d'une injustice et d'une violence absurde. Et donc, je pense que la dimension spirituelle de Bach peut aider à cet hommage.
Très bien. Mais nous écoutons donc le message de radio et cette chorale, ce choral de Bach, le Christ gisait dans les liens de la mort.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons le plaisir ce soir de recevoir Denis Crouzet, qui est historien spécialiste de cette période de la Renaissance des guerres de religion, et puis et naturellement de la violence qui s'est exprimée. Il est professeur à l'université de Paris-Sorbonne et nous avons le plaisir de le recevoir ce soir pour cet ouvrage, cette somme qu'il publie. L'histoire introuvable, une Saint-Barthélemy sans fin, qui est publiée donc aux éditions Champvallon dans la collection Époque. C'est il y a 4 siècles. Denis Crouzet va nous présenter bien sûr lui-même cet ouvrage qui est passionnant, qui est très complet, et on en comprend mieux après justement ce qu'il vient de nous expliquer sur cette histoire, justement ces histoires introuvables, et qui 4 siècles après, malgré toutes les recherches, on est lié à en faire, tenu à en faire pour certains moments clés des suppositions. Et on comprend mieux donc le but de cet ouvrage où il rassemble tous ces témoignages, tous ces écrits pendant 4 siècles, dont certains d'ailleurs de personnes, d'auteurs très connus et d'autres non, où chacun donne son point de vue, son interprétation sur ce qui s'est passé à la Saint-Barthélemy. Mais Denis Crouzet nous l'a expliqué, ce qui s'est passé après la tentative d'assassinat de Coligny, ce qui s'est passé au Louvre, eh bien en fait on l'ignore et on est tenu à en faire des suppositions, alors que c'est décisif, ce qui est certain. En revanche, ce qu'il nous a expliqué, c'est que probablement il y a une décision prise sous la pression, sous la crainte et sous la peur par le Charles IX et sa mère et son conseil d'éliminer Coligny et un certain nombre de chefs protestants, et c'est ça qui va dégénérer dans un massacre généralisé, une espèce de dérapage dans l'horreur, et qui va durer plusieurs jours, et qui va être en quelque sorte, ça aussi c'est une grande surprise, Denis Crouzet nous l'a expliqué, va être assumé par le roi, lors de son discours justement au Parlement, 2 jours ou 3 jours après, effectivement, le cœur de ces événements. Alors, Denis Crouzet, nous avons de nombreux messages d'auditeurs, je vais vous les lire, mais ça vous permettra aussi, je pense, de rebondir sur l'objet de votre livre, parce que, eh bien, en lisant ces témoignages, on est dans votre livre. On est dans votre livre et dans cette histoire introuvable des causes, en tout cas, la Saint-Barthélemy. Alors, nous avons aussi un auditeur. Même si les violences ont commencé par la faute des catholiques, les atrocités dues aux protestants sont en général passées sous silence. Je pense à la Michelade, massacre perpétré par des huguenots à Nîmes 10 ans avant la Saint-Barthélemy. Et je ne peux m'empêcher de songer toujours aux atrocités protestantes quand je remonte sur l'autoroute au nord d'Avignon et que j'aperçois les falaises de Mornas, d'où la population catholique a été jetée dans le vide, paraît-il. Le sinistre baron des Adrets et le redoutable connétable de Lesdiguières ont connu une fin paisible en dépit de leurs actes. Un bel hôtel à Grenoble porte même le nom du dernier homme d'armes cité, Lesdiguières. Le premier message.
Puis votre correspondant a tout à fait bien compris ce qui s'est passé. C'est-à-dire que on ne doit pas limiter les déchaînements violents aux catholiques de la Saint-Barthélemy. Toute l'histoire des guerres de religion est scandée par des violences commises par des protestants contre des prêtres d'abord, contre des images dans les églises, parce que pour eux, l'église romaine est la Babylone des temps modernes et qu'il faut la détruire et donc tuer tous ceux qui sont à son service, les prêtres, les moines, pour enfin que la vérité de l'évangile revienne triomphante parmi le peuple de Dieu et que personne ne le détourne du véritable amour de Dieu. Donc des atrocités terribles, prêtres éventrés, prêtres avec les têtes desquels on joue aux boules, tout ce que vous voulez. Mais du côté catholique, très tôt, il y a des massacres. Dès l'année 1561, des massacres de 60-70 personnes, puis la première guerre de religion, qui est un carnage de protestants dans les villes qui tombent sous le contrôle catholique, une culture du massacre partagé existe, même si les protestants tuent d'abord les prêtres et les moines. Mais aucune de ces violences dont je viens de parler n'a eu le même potentiel d'effroi historique que la Saint-Barthélemy. Ce sont des gens qui dormaient chez eux, à qui la royauté avait promis la paix et la sécurité, qui sont assassinés les uns après les autres, traînés à la Seine, poignardés et jetés dans l'eau, abandonnés aux eaux de la rivière. Et jusqu'à présent, on disait 2000 morts. Moi, je pense qu'il y a au moins 4000, si ce n'est plus, je l'ai déjà dit, de morts. Dans l'histoire de France, on n'a pas une tuerie de cette ampleur qui se rapproche des grands assassinats du XXe siècle, massacre des Arméniens, massacre évidemment de la Shoah, tout ce que l'on veut. C'est comme si il y avait une sorte de premier déclic de cette idée que l'autre doit disparaître, qu'il faut le tuer, non pas seulement individuellement, mais dans toute la société religieuse à laquelle il appartient. Terrible, la Saint-Barthélemy. Le massacre commence certainement pour la population vers 7-8 heures du matin, mais ensuite il perdure 3-4-5 jours, et encore vers le 9-10 septembre, il y a quelques morts qui adviennent du fait de catholiques voulant finir le travail, en quelque sorte. Donc, vous voyez, ce qui fait la charge symbolique de la Saint-Barthélemy, c'est cette population qui meurt sous les coups d'hommes qui peuvent être leurs voisins, mais qui peuvent être aussi des errants qui cherchent à piller une maison, à profiter de la perte de contrôle par les institutions de Paris.
Alors justement, nous avons le message d'un auditeur qui nous signale une récente, rare et superbe exposition qui a eu lieu au Musée national de la Renaissance à Écouen, qui dévoila l'œuvre du graveur Étienne Delaune, qui échappa à la Saint-Barthélemy, contrairement à nombre de ses confrères, fut exposé l'épais recueil imprimé des victimes, le martyrologe de ces jours-là, les noms des assassinés, leur profession et la manière dont ils furent tués.
Alors, le martyrologue, c'est l'œuvre d'un protestant installé à Genève qui a recueilli les témoignages de fugitifs, noté les noms de ceux qui étaient morts, et s'il y avait des détails, raconter comment ils étaient morts, quelles atrocités ils avaient subies. C'est un texte fondamental, mais on est surpris. Ce ne sont pas les 2, 4 ou plus 1000 morts qui sont cités, ce sont 250 vestiges de cette tuerie qui sont entrés dans la mémoire, avec tous les détails qui accompagnent leur parcours martyr, mais l'histoire là est demeurée muette parce que ceux qui ont assisté aux morts de leurs voisins ou de leurs proches sont morts aussi, et qu'à Genève, tout le monde n'est pas passé par Genève. Certains qui ont réussi à fuir sont partis en Angleterre, d'autres aux Pays-Bas. C'est une petite part du grand drame que le martyrologe de Crespin a enregistré.
Nous avons aussi donc un auditeur qui vous envoie ce message. Ce qui choque, écrit-il, nos sensibilités, mais renseigne bien sur la mentalité des temps, ce sont les fresques du Vatican qui célèbrent l'attentat de Coligny et tout à côté son assassinat. On l'y voit jeté par la fenêtre au milieu du massacre de rue. La fresque est tout de suite à droite de la porte de la chapelle Sixtine, mais le cadrage des caméras ne la montre jamais lorsqu'on voit la procession des cardinaux qui entrent en conclave. Vous connaissez cette fresque, vous qui connaissez bien l'Italie. C'est une réalité, vous l'avez vue ?
Elle est très connue.
Ah bon ?
Elle est en couverture de mon livre sur Mais c'est une reconstruction faite d'après un ouvrage contestable. L'image la plus pertinente sur le massacre, c'est un tableau qui se trouve à Lausanne, qui est une sorte de grande bande dessinée dans Paris, où l'on voit mourir des figures du protestantisme parisien que l'on peut identifier d'après le martyrologe de Crespin. Mais les images sont une micro-partie de l'histoire, et finalement, ce qui est comme dans toutes les grandes tueries terribles, c'est que les morts ne parlent pas et qu'ils rentrent dans l'obscurité, et que on a tendance à euphémiser ce qui s'est passé. Il n'y a rien de plus terrible qu'une mort se rajoutant à d'autres morts. La Saint-Barthélemy, c'est un peu un symbole, justement, de l'impuissance de l'histoire à dire qui est mort, comment sont morts. Et on est dans les mêmes schémas que les massacres d'Arméniens jetés dans l'Euphrate depuis des falaises. Qui étaient-ils? Quel parcours dramatique ont-ils dû réaliser avec les enfants jetés dans des hôtes, tous ensemble, dans les rapides? Un massacre, c'est une atrocité épouvantable. Et c'est ce qui rend la fonction de l'historien difficile, c'est qu'on doit parler historiquement de quelque chose qui prend au cœur, voyez.
C'est ce que vous faites magnifiquement, Denis Crouzet, dans ce livre, hein, l'histoire introuvable, une Saint-Barthélemy sans fin, que vous publiez aux éditions Champvallon, où vous recueillez plus de 4 siècles hein, d'écrits et de témoignages de gens peu connus, mais aussi de personnes très connues. On a parlé de Michelet, vous citez aussi Hugo, vous parlez de Montaigne, et de Montluc, hein, Montluc et Montaigne qui ont vécu cette période. Eh bien, que disent-ils ou que ne disent-ils pas d'ailleurs dans les deux cas? Et c'est toute l'analyse que vous nous proposez dans ce livre passionnant, très extrêmement complet et fouillé. Et j'encourage vraiment les auditeurs à le lire. Mais nous serons une deuxième émission. Vous avez accepté de venir deux fois. Je vous en remercie, Denis Crouzet, parce que nous allons bien sûr, plutôt la fois suivante, d'ailleurs la fois prochaine, rentrer vraiment dans un choix de témoignages tout au long de ces 4 siècles, tels que vous le proposez dans votre livre. Là, nous avons beaucoup, beaucoup de messages d'auditeurs. Ça montre aussi l'intérêt que vous suscitez chez nos auditeurs.
Merci, merci aux auditeurs et de leur dire que je suis non pas heureux, on ne peut pas être heureux de parler d'un massacre, mais je suis disons serein de savoir que cette histoire que je raconte avec un pathétisme que j'assume, je ne suis pas protestant, mais je suis solidaire de ceux qui sont morts parce qu'ils honoraient un autre Dieu dans des circonstances atroces. Je voudrais donner un exemple d'atrocité, parce que je l'ai étudié récemment. Une femme est saisie par des catholiques, peut-être des bourgeois de la milice. Elle portait des bracelets d'or. Pour aller plus vite et les lui enlever, les tueurs lui coupe les poignets, et ensuite, très symbolique, un charcutier, si vous voulez, je prends un autre terme, lui enfonce à travers le corps une broche pour faire cuire des rôtis. Et alors, ça fait le sens qu'ils veulent donner, c'est un sens religieux. Pourquoi lui couper les mains? C'est parce que c'est avec ses mains qu'elle a cuisiné de la viande pour faire des plats en période de carême, contre ce que l'Église ordonne. Pourquoi est-elle transformée en un rôti, en étant embrochée? C'est parce que elle devient ce par quoi elle a offensé la grandeur divine, et les violences à ce moment-là deviennent une pédagogie de la volonté de Dieu, une forme de vengeance de Dieu contre ceux ou celles qui l'ont offensé par les mains des hommes.
Alors nous avons un auditeur qui nous dit « La Saint-Barthélemy ne fut pas le seul grand massacre de Paris dans l'histoire, il y en a eu d'autres, hein, il parle de la Commune, il parle de 1848, on pourrait ajouter aussi d'autres 1850. » Et 1000 autres exemples, est-ce que ce massacre de la Saint-Barthélemy, pour vous, il a une dimension particulière, différente des autres horreurs vues dans Paris? On pense aussi au Paris révolutionnaire, on parlait en introduction des massacres dans les prisons en septembre 1792. Et puis la question de l'auditeur, c'est les protestants qui abjuraient lors de la Saint-Barthélemy ont-ils eu la vie sauve?
Les lendemains de la Saint-Barthélemy sont assumés par l'Église à la demande du roi comme un moment où ceux qui ont été dans l'erreur reçoivent la possibilité de quitter leur religion et de revenir à la religion catholique et romaine. Et ce sont de grands cérémoniaux avec une lecture d'un formulaire d'abjuration qui sont organisés et qui voient terrorisés, sachant que leur vie est suspendue à ce nouvel engagement, qui voient les protestants renoncer à leur foi, et bien souvent définitivement, parce que la violence a été d'une telle intensité que pour certains, si elle a pu advenir, c'est que Dieu l'a voulu. et qu'elles seraient une sorte de preuve de ce qu'ils étaient dans l'erreur.
Ils le comprennent comme ça. Mais voilà. Pardonnez cette question, mais dans le feu du massacre, dans le feu de l'action, vous nous expliquez hein, cette milice, la milice bourgeoise qui échappe complètement à tout contrôle et qui massacre, qui pille, etc., qui tire les gens de leur lit hein, au petit matin, donc sans défense, ils se laissent quasiment tous faire, d'ailleurs, c'est ce que vous écrivez. Leur ont-ils laissé la possibilité d'une conversion sur le moment, ou au contraire, on est dans le feu de l'action et on tue tout ce qui bouge, quoi?
Et là, il y a le livre de Jérémy Foa, « Tous ceux qui tombent », qui est important, parce que à partir d'archives inédites, il montre que le massacre est un massacre de voisinage dans lequel les gens de la milice règlent des conflits souvent d'ordre financier, familiaux, avec les protestants qu'ils connaissent, et que donc la violence est, disons, un règlement sur des centaines et des centaines de cas de conflits privés qui étaient latents et qui se réalisent brutalement à la faveur de cette violence autorisée par le pouvoir royal ou dite autorisée par le pouvoir royal. Hein, c'est cela aussi qui est intéressant. Il y en a qui n'ont pas même eu la possibilité d'abjurer parce que il y avait des intérêts derrière, le pillage de la maison et des biens qui étaient revendiqués, etc. Une femme que l'on voulait quitter et remplacer par une autre, etc.
Denis Crouzet, malheureusement, notre émission touche à sa fin. Il y a encore bien d'autres messages d'auditeurs, je les garde pour la prochaine fois, c'est promis, cher auditeur. Hein, donc on les reprendra à notre prochaine émission où donc nous allons plus particulièrement rentrer hein, dans ces écrits qui témoigne de cette histoire introuvable. C'est le titre de votre livre, Denis Crouzet, L'histoire introuvable. Une Saint-Barthélemy sans fin aux éditions Champvallon, dans la collection Époque. Merci beaucoup à vous, Denis Crouzet, d'être venu ce soir à notre micro du cœur. Et puis donc, à très bientôt. On se retrouve bientôt hein, pour la suite. Bonne soirée à vous. Au revoir.